Et donc nous recevons Frédéric Daigne. Alors Frédéric va nous présenter une conférence sur la première détection de l'émission gravitationnelle lumineuse due à une fusion d'étoiles à neutrons. Donc un résultat très important qui a été observé cet été. Donc des résultats très récents, peut-être même d'autres plus récents que Frédéric va nous présenter aujourd'hui. Donc Frédéric est professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Il enseigne également à Polytechnique. Et puis donc il est astrophysicien à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et il mène ses travaux de recherche dans l'astrophysique des hautes énergies et en cosmologie. Et donc notamment, il travaille sur les sursauts gamma, leur étude, leur modélisation. Son parcours, il a soutenu sa thèse en 1999, qui était justement consacrée à l'étude des sursauts gamma. Et donc à cette époque-là, donc les sursauts gamma étaient bien observés, mais il ne devait pas y avoir beaucoup de contreparties observées, peut-être même aucune à cette époque-là.
Si, déjà quelques-unes.
Mais donc maintenant, il y en a beaucoup plus. Et puis donc, une partie de l'énigme des sursauts gamma a pu être dévoilée grâce à ce qu'il a présenté aujourd'hui. Par la suite, donc Frédéric est allé travailler à l'Institut Max Planck pour l'astrophysique à Garching en Allemagne. Il est revenu en France où il a travaillé au service d'astrophysique du CEA à Saclay. Et puis, il a rejoint l'université Pierre et Marie Curie, donc où il est toujours, où il est actuellement professeur. Ses travaux lui ont valu notamment la médaille de bronze du CNRS. Il a travaillé également en tant que membre de l'Institut universitaire de France. Et puis, il est également le directeur adjoint à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et donc, je lui laisse la parole pour sa conférence, pour à peu près une heure. Merci, Frédéric.
Merci beaucoup, Guillaume. Alors, en fait, j'ai... Merci. Alors, j'étais professeur à l'Université Pierre et Marie Curie, mais depuis le 1er janvier, je suis maintenant professeur à Sorbonne Université, puisque l'Université Pierre et Marie Curie a fusionné avec l'Université Paris 4 et ne forme plus qu'une nouvelle université. Alors, je ne vais pas commenter tout de suite les trois figures qui sont là, mais j'espère qu'à la fin de cette présentation, vous serez capable de les identifier et de savoir toute l'information qu'elles nous apportent. Alors, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est d'un événement absolument exceptionnel qui a eu lieu cet été au mois d'août. Un événement qui restera dans les livres d'histoire des sciences, au moins d'histoire de l'astronomie, je pense, pendant longtemps, qui à la fois est très beau pour plein de raisons. D'une part parce que c'est l'aboutissement d'un effort de mise en œuvre de méthodes de détection extrêmement délicates sur des décennies qui aboutit enfin. Parce que, une fois de plus, ça démontre la force de la physique et de son pouvoir prédictif, puisque les observations qui ont été effectuées confirment en grande partie des choses qui avaient été prédites des années, voire des décennies avant. Et parce que ça ouvre une nouvelle façon de faire de l'astronomie qui va sans doute changer notre regard sur un certain nombre de phénomènes dans les années qui viennent. Alors, au cœur de cette nouvelle astronomie, il y a la détection des ondes gravitationnelles. Jusqu'à aujourd'hui, et ça reste encore le cas, l'essentiel de l'information que l'on exploite en astronomie est transporté par la lumière. La première grande révolution, ça a été après la première construction de lunettes astronomiques, le fait d'observer pour la première fois le ciel avec un instrument astronomique, c'est Galilée. Et il y a eu des tonnes de nouvelles observations, les satellites de Jupiter, les montagnes sur la Lune, les phases de Vénus, etc. Les instruments se sont développés, on a construit des lunettes de plus en plus grandes, des télescopes ensuite avec des miroirs de plus en plus grands. Deuxième grande révolution, après la Seconde Guerre mondiale, on commence à explorer l'observation de l'univers avec une lumière différente de la lumière visible. On a commencé avec les ondes radio, avec le développement de radiotélescopes, parce que c'est des instruments qu'on peut construire au sol. Ensuite, on a été capable d'envoyer des satellites dans l'espace et on a commencé à observer le ciel en infrarouge, en rayons X, en rayons gamma, etc. Autre révolution, dans les années 80, on commence à faire une nouvelle astronomie qu'on appelle à plusieurs messagers, parce qu'on arrive à détecter pour la première fois des sources, en l'occurrence une source, non seulement avec de la lumière, mais aussi avec un autre type de particules, en l'occurrence à cette époque-là, les neutrinos. On détecte les neutrinos qui viennent du Soleil. Et c'est un premier très bel exemple de l'apport de l'astronomie multimessager, parce que quand on observe le Soleil, la lumière qu'on détecte arrive directement de la surface, alors que les neutrinos, pour eux, comme les neutrinos interagissent très faiblement avec la matière, le Soleil est transparent et eux, ils viennent directement du cœur du Soleil, là où ont lieu les réactions de fusion nucléaire. Et donc, les deux informations sont extrêmement complémentaires. Et puis, en 2015, nouvelle révolution, on détecte cette fois les ondes gravitationnelles et l'événement dont je vais vous parler est directement relié à cette nouveauté. Alors avant, je vais essayer de vous expliquer, malgré la difficulté, ce que sont des ondes gravitationnelles. Et pour pouvoir parler d'ondes gravitationnelles, il faut commencer par parler un peu de ce qu'est la gravité et comment, dans la physique moderne, on décrit l'interaction gravitationnelle. Alors, vous savez que, par exemple, si je saute, je retombe. C'est parce que je suis soumis à l'attraction gravitationnelle de la Terre et c'est ce qu'à notre échelle, on appelle le poids. Je suis soumis à mon poids. Il se trouve qu'à notre échelle, la gravité est très bien décrite par une loi qui est due à Newton, qui est la loi de la gravitation universelle, et même à des échelles beaucoup plus grandes, à l'échelle du système solaire, par exemple, voire même de la galaxie. Et que par ailleurs, Newton a aussi fourni les éléments essentiels pour comprendre les lois du mouvement une fois qu'on connaît les interactions, ce qu'on appelle les principes de la dynamique de Newton. Et si on met tout ça ensemble, on comprend parfaitement tout, la chute d'une pomme, le mouvement de la Lune autour de la Terre, des planètes autour du Soleil, etc. Tout ça fonctionne très bien. Cependant, à la fin du 19e siècle, on a commencé à voir des petits écarts entre certaines observations et la théorie, en particulier le mouvement de Mercure n'était pas bien expliqué. Et donc, au XXe siècle, il a fallu repenser la gravité, et l'essentiel de ce travail est dû à Einstein, qui a formulé ce qu'on appelle la relativité générale. Alors, le changement de point de vue est tout à fait radical. Dans la physique de Newton, on parle vraiment de force, c'est-à-dire qu'on imagine que le Soleil exerce, de manière instantanée, sans qu'on sache très bien comment c'est possible, une force sur la Terre. À chaque instant, la Terre sait où est le Soleil et quelle force le Soleil exerce sur elle, ce qui est loin d'être évident. Et donc, l'explication du mouvement de la Terre est le suivant. S'il n'y avait pas le Soleil, la Terre, du fait de sa vitesse initiale, continuerait indéfiniment en ligne droite à vitesse constante. C'est ce qu'on appelle le principe d'inertie dû à Galilée. Mais à cause de la présence du Soleil, la Terre subit en plus la force de gravité exercée par le Soleil. Et c'est ça qui fait tourner la Terre autour du Soleil. Alors, dans la relativité générale d'Einstein, le point de vue est complètement différent. La gravité n'est plus une force, c'est une propriété de l'espace-temps qui est due à la présence des masses et de l'énergie dans l'espace-temps et qui est présente indépendamment ou non de la présence de, par exemple, la Terre pour voir sa manifestation. Alors, je peux essayer de vous donner une image pour visualiser ça, qui n'est pas due à moi, qui est très souvent utilisée. Pour matérialiser dans sa tête l'espace-temps, on va imaginer qu'un groupe de physiciens et physiciennes a décidé de faire une expérience et aller acheter une nappe quadrillée. Et ils ont trouvé un magasin très exceptionnel où ils ont réussi à trouver une nappe sans frottement. Alors ils ont acheté cette nappe et ils se mettent à quatre, un à chaque coin, et ils tendent la nappe. Ça matérialise un espace-temps dans lequel il n'y a aucune masse, aucune énergie. Donc l'espace-temps est parfaitement plat. Et si je pose une particule test, par exemple une petite bille, en astronomie ça serait par exemple la Terre, et que je lui donne une petite impulsion initiale, une petite pichenette, eh bien, principe d'inertie, elle va continuer en ligne droite, parce que la nappe est parfaitement plate, et indéfiniment, parce que j'ai acheté une nappe sans frottement. Voilà. Alors maintenant, je veux matérialiser ce qu'est la gravité, et donc je vais mettre une masse dans mon espace-temps. Donc j'achète une boule de pétanque, je suis le cinquième physicien, et je pose la boule de pétanque au milieu de la nappe, et donc elle va courber localement le tissu. Et si je refais l'expérience de la petite bille que je lance, la particule test, et bien quand elle va se rapprocher de la boule de pétanque, elle va tourner, non pas parce que la boule de pétanque exerce de manière mystérieuse et instantanée une force sur la bille, mais parce que indépendamment de la présence de la bille, l'espace-temps, ici la nappe, a été courbé par la présence de la boule de pétanque. Alors ça, c'est la gravité en relativité générale. Alors, si vous me suivez toujours, imaginez maintenant qu'un sixième physicien ou une sixième physicienne arrive et dépose pendant cette expérience très délicatement la pulpe de son index juste à effleurer la nappe. Et au moment du mouvement de la bille autour de la boule de pétanque, elle va sentir une infime vibration dans son doigt et c'est ça l'onde gravitationnelle. Et pour réussir à faire une onde gravitationnelle vraiment intense, eh bien, il faut des mouvements plus brutaux. Et donc, imaginez, par exemple, deux boules de pétanque qui tournent très rapidement l'une autour de l'autre, et là, la vibration sera plus facile à détecter. Alors c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors j'espère qu'avec ces images, vous visualisez un peu ce que peut être l'onde gravitationnelle. Et maintenant, on peut dire un mot de comment la détecter. Et ça, il a fallu des décennies pour y arriver. Alors, quand la prédiction de la relativité générale, elle est due à Einstein en 1915 et les ondes gravitationnelles aussi. Et au départ, quand il a écrit la première équation qui permet de calculer l'émission d'ondes gravitationnelles d'une source astrophysique, il a au départ conclu, et c'était assez naturel vu l'équation, que le signal serait toujours beaucoup trop faible pour avoir la moindre chance d'être détecté. Et puis ensuite, il s'est passé deux choses. Premièrement, on a compris qu'il y avait quand même un certain type de source qu'Einstein ne soupçonnait pas, qui pouvait produire un signal beaucoup plus fort. C'est typiquement deux objets très compacts qui tournent très rapidement l'un autour de l'autre, donc deux trous noirs ou deux étoiles à neutrons. Et puis ensuite, on a en plus imaginé des moyens de détecter l'onde gravitationnelle. Et alors pour ça, on utilise une propriété très particulière de cette onde, c'est qu'au passage de l'onde dans un endroit donné, eh bien les distances sont déformées légèrement, mais elles ne le sont pas dans toutes les directions de la même façon. Certaines directions, les distances vont se contracter, certaines directions, les distances vont s'allonger. Donc les gens ont imaginé un principe qui est celui d'un interféromètre. Donc un interféromètre, le principe est le suivant. Vous avez un laser qui envoie un faisceau lumineux. Vous avez une lame séparatrice qui laisse passer 50% du faisceau et qui envoie 50% du faisceau dans une direction perpendiculaire. Vous mettez un miroir au bout de chaque distance, ici. Si la distance est strictement identique sur les deux bras, quand la lumière revient ici, bien qu'elle soit passée par deux chemins différents, elle est encore parfaitement en phase parce qu'elle a parcouru la même distance. Et ensuite, elle vient se recombiner sur un détecteur ici. Et comme elle est parfaitement en phase, on va obtenir ce qu'on appelle des interférences constructives. Typiquement, vous imaginez, la lumière se comporte comme une onde. Alors, ce n'est pas facile de visualiser l'onde lumineuse, mais il y a d'autres ondes qu'on peut visualiser facilement. C'est par exemple, si on jette un caillou à la surface de l'eau, on voit une onde se propager. S'il y a un seul caillou, il y a une seule onde. Si on jette deux cailloux, il y a deux ondes. Et à l'endroit où les deux ondes se rencontrent, là où on aurait dû avoir deux vagues supérieures, ben on a une vague encore plus intense. Et là où on aurait dû avoir une vague et un creux, ben en fait, les choses s'annulent. Voilà. Et donc, on va avoir une interférence constructive. Maintenant, si l'onde gravitationnelle passe dans cet instrument, elle va déformer de manière différente les deux bras et la figure d'interférence va se brouiller. Et c'est ça le principe de la détection. Alors dit comme ça, ça paraît facile, mais le problème, c'est que la variation de distance qu'on veut mesurer est inférieure à la taille d'un noyau d'atomes, bien que l'instrument fasse plusieurs kilomètres de long. Typiquement, les bras font 3 km de long pour l'instrument européen qui s'appelle Virgo et 4 km de long pour les deux instruments américains qui s'appellent LIGO. L'ensemble formant maintenant une collaboration unique qu'on appelle LIGO-Virgo. Alors vous avez ici deux de ces interféromètres, l'interféromètre européen et l'un des deux interféromètres américains. Donc vous voyez, c'est des interféromètres qu'on peut mettre sur une carte Michelin. Ça fait 3 km de long dans chaque direction. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui permet la détection à la fin, parce qu'une fois qu'on a dit que la distance est aussi petite, c'est à mesurer. Mais si vous avez des questions, je serai donner quelques éléments, mais ce n'est quand même pas mon sujet de spécialité. Ce que je peux juste commenter, c'est dans quelle fréquence d'onde on est sensible. Alors, il y a plein de choses qui empêchent de détecter le signal, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent faire vibrer l'instrument plus que l'onde gravitationnelle, vu le tout petit effet. Alors, à basse fréquence, ce qui limite la détection, c'est tout simplement que le sol vibre. On a mis les meilleurs amortisseurs du monde sur les miroirs, mais malgré ça, il y a quand même une limitation. Donc, on ne peut pas aller à très basse fréquence. À très haute fréquence, les limitations sont d'origine quantique et sont liées à la physique du laser. Et dans les fréquences intermédiaires, c'est lié au fait que les miroirs ne sont pas à température nulle et donc qu'ils vibrent à cause de l'agitation thermique des atomes dont ils sont faits. Et cet effet très faible doit être pris en compte. Donc ça limite la sensibilité à haute et à basse fréquence et moyenne. Et à la fin, de manière amusante, la gamme de fréquences qui reste correspond assez bien à la fréquence des ondes sonores audibles. Donc très souvent, dans les conférences, et j'essaierai de le faire aussi, on développe une analogie entre les ondes gravitationnelles et les ondes sonores. Et c'est bien sûr une simple analogie qui est liée au fait que la gamme de fréquences est la même. Voilà. Alors, Maintenant, je vous ai dit, on a identifié un type de source particulier qui doit a priori donner le signal le plus fort et qu'on peut détecter. C'est un système de deux étoiles à neutrons ou de deux trous noirs. Quand vous avez un système avec deux corps qui orbitent l'un autour de l'autre, en physique classique, la physique de Newton, l'orbite existe éternellement. La distance ne varie pas entre les deux objets. Mais en relativité générale, eh bien Einstein prédit que le système émet des ondes gravitationnelles et qu'en contrepartie, les deux objets se rapprochent progressivement l'un de l'autre et finissent par fusionner. Et c'est en particulier dans cette dernière phase qu'on attend un signal très intense. Alors sur cette petite animation, vous visualisez l'espace-temps, deux étoiles à neutrons qui tournent l'une autour de l'autre, l'une est un pulsar, c'est comme ça qu'on la détecte, c'est le faisceau que vous voyez, le faisceau radio. Elles tournent l'une autour de l'autre, au début assez lentement, puis ça va accélérer. Et dans cette phase-là, eh bien, on peut calculer l'émission de gravitationnelle. Vous voyez commencer une ondulation qui commence à se propager dans l'espace-temps. Puis elles arrivent en contact. Et dans la phase où elles rentrent en contact, là, on a beaucoup plus de mal à calculer précisément le signal, mais on sait qu'il doit être très intense. Et puis après, un objet central se forme, qui peut être une étoile à neutrons très massive ou un trou noir, et il se relaxe en émettant encore un signal que l'on sait encore prédire. Donc si je résume, voilà, là c'est le collapse en trou noir, et voilà, il y a un trou qui s'est fait dans l'espace-temps, c'est ça le trou noir. Alors, si je résume, il y a donc trois phases dans l'émission des ondes gravitationnelles, une phase spiralante, une phase de fusion et une phase de relaxation. La phase spiralante, on est capable de calculer le signal par des techniques mathématiques très avancées qui consistent à faire des développements, on part de la physique de Newton et on ajoute des corrections dites post-newtoniennes pour se rapprocher de plus en plus de la relativité générale exacte. C'est des techniques mathématiques très subtiles et nous avons la chance à l'Institut d'astrophysique de Paris d'avoir les grands spécialistes de ça, avec en particulier Luc Blanchet et Guillaume Faye. Et c'est grâce à leurs calculs qu'ils mènent depuis des années qu'on a une compréhension suffisamment fine de ce signal pour pouvoir ensuite d'une part, générer une alerte dans le détecteur LIGO-Virgo pour savoir qu'un événement est en cours, et d'autre part, ensuite, analyser ce signal et en sortir les caractéristiques physiques de la source observée. Donc là, il y a un travail théorique en amont, auquel donc l'IAP a participé, qui est fondamental. Dans la phase de fusion proprement dite, on n'a aucun moyen d'attaquer le problème autrement que par des simulations numériques extrêmement lourdes, et pour l'instant, on a du mal à faire ça, donc on n'a pas une très bonne compréhension du signal attendu, et c'est éventuellement l'observation qui va faire progresser le domaine. Et dans la phase de relaxation, il y a de nouveau des méthodes mathématiques perturbatives qui permettent de calculer soigneusement le signal, et là, le grand précurseur de ça, c'est Thibaut Damour, qui a été récompensé récemment par la médaille d'or du CNRS. Voilà. Alors voilà, donc on a cette connaissance théorique, et on l'a depuis bien avant les premières détections. Alors la première détection a eu lieu en 2015, le 14 septembre, et elle a été annoncée en février de l'année suivante. Et alors vous savez qu'en physique fondamentale, qu'est-ce qu'on produit quand on me demande « mais tu produis quoi dans ta vie ?» Ben, je produis des articles dans des revues à comité de lecture. Voilà, c'est ça la production des chercheurs. Et donc là, la découverte est publiée dans une revue à comité de lecture plutôt prestigieuse. Et elle est signée de Abbott et Tal. Et en fait, c'est une collaboration de plusieurs centaines de personnes. Et ils ont mis tous les noms par l'ordre alphabétique. Et donc, il y en a un qui a eu la chance d'avoir un nom qui commençait par ABB. Donc, c'est lui le premier signataire. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils disent dans cette publication? Eh bien, ils disent que pour la première fois, ils ont détecté un signal d'onde gravitationnelle, quelque chose dont on rêvait depuis des années. J'ai fait mon DEA là, en même temps que Guillaume en 1995-96. On avait la chance d'avoir Luc Blanchet, dont je vous ai parlé il y a un instant, comme professeur de relativité générale, et il nous parlait avec une certaine émotion dans la voix de « un jour, on détectera les ondes gravitationnelles ». Eh bien oui, on l'a fait, et ça, c'est quand même très satisfaisant, parce que vous savez, quand on est chercheur, de temps en temps, il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de poser la fameuse question « vous cherchez certes, mais est-ce que vous trouvez ?» Eh bien, en astrophysique, on peut dire que oui, si on compare l'état des connaissances il y a 20 ans et l'état des connaissances actuelles, c'est absolument fascinant le nombre de découvertes qui ont été faites. Et celle-là est parmi les plus belles. Alors ensuite, ils disent qu'ils ont détecté quoi? Eh bien, ils ont détecté un système de deux trous noirs qui coalescent, c'est-à-dire exactement les sources qu'on attendait en premier, à une petite nuance près, qui est qu'on n'attendait pas la détection aussi vite. Et pourquoi? Parce que ici, les deux trous noirs sont très massifs, 30 fois la masse du Soleil chacun, et on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des systèmes binaires de deux trous noirs aussi massifs en grand nombre. Donc là, il y a une petite surprise astrophysique. Et inutile de vous dire que beaucoup de gens, y compris à l'IAP, travaillent maintenant sur un scénario de formation de ces systèmes. Alors je vais vous montrer à quoi ressemble le signal gravitationnel. Donc on va commencer par comment... Alors chaque colonne correspond à un des deux détecteurs de LIGO. Alors le premier graphe tout en bas, c'est la fréquence caractéristique du signal au cours du temps et l'intensité de la lumière code l'intensité du signal. Donc vous voyez que si on développe l'analogie sonore, on peut dire que typiquement une détection de fusion de trous noirs ou une fusion d'étoiles à neutrons, du point de vue onde gravitationnelle, ça commence par un pianississimo dans les graves, et puis ça augmente, et ça finit par un fortississimo dans les aigus. Ici, vous voyez, typiquement, pas très loin du lac 440. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on détecte. Là, vous voyez l'onde correspondante avec donc une fréquence qui augmente et une intensité qui augmente. Donc typiquement, ça correspond à la première phase, la phase spiralante où les deux trous noirs tournent l'un autour de l'autre. Et ça, c'est la relaxation après que les deux trous noirs aient fusionné. Vous avez les deux détecteurs qui détectent globalement la même chose. Et vous avez ici la comparaison du signal après filtrage, donc c'est pour ça qu'il est un peu moins variable, avec donc le filtrage, le signal après filtrage, c'est le gris qui est derrière, pas très brillant, avec le signal théorique, dû par exemple à Luc Blanchet et ses collaborateurs, qui est en rouge. Vous voyez que l'accord est formidable, et là, on a une première confirmation. On a un accord entre ce que prédisait la relativité générale et le signal observé qui est absolument fantastique. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, il y a un petit délai dans l'arrivée du signal entre les deux détecteurs qui sont séparés de plusieurs centaines de kilomètres. Alors, par triangulation, en comparant ces temps d'arrivée, on peut en déduire une information très grossière sur la direction de la source. Imaginez, par exemple, que je suis un détecteur d'onde gravitationnelle et quelqu'un qui n'est pas là, mais qui serait assis à l'autre bout de la table, et un autre détecteur d'onde gravitationnelle. Il est clair que si la source est ici, c'est moi qui détecte en premier. Si la source est de l'autre côté, c'est lui qui détecte en premier. C'est ça, en gros, la philosophie. Alors, le résultat, c'est ça. Voilà la région du ciel où était la source. Et cette région, elle fait 900 degrés carrés. À titre indicatif, le Soleil a un diamètre d'un demi-degré dans le ciel. Donc, c'est une région énorme dans le ciel, avec des millions, voire des milliards de galaxies. Impossible de savoir d'où vient précisément le signal. Ce n'est pas assez précis. Mais il y a quand même un potentiel. On peut espérer faire mieux un jour. Alors ensuite, de manière très intéressante, l'intensité du signal, c'est-à-dire l'amplitude ici, porte en elle, quand on connaît la théorie qui est derrière, la distance de la source. En fait, précisément, la forme de cette évolution en fréquence ici permet de remonter à la masse du système. Et une fois qu'on a la masse, le seul paramètre restant qui fixe l'intensité ici, c'est la distance. Donc c'est très beau, les ondes gravitationnelles, elles ont le pouvoir de donner immédiatement la distance. Vous avez vu, on a une très mauvaise précision sur la localisation. C'est dans une très grande région du ciel, mais on sait précisément à quelle distance c'est dans cette région inconnue. Et là, la distance est de 400 mégaparsecs, c'est-à-dire plus d'un milliard d'années-lumière. C'est une source extrêmement lointaine. D'accord ? Alors justement, je vous ai dit, l'évolution de la fréquence initiale permet de caractériser le système. Et c'est ce que je vous ai dit, on trouve que c'est deux trous noirs d'à peu près 30 masses solaires, ce qui là, pour le coup, était une surprise astrophysique. Alors ici, on a la chance de détecter aussi le signal pendant la phase de relaxation. C'est un signal beaucoup plus faible, mais il est bien détecté. Et il permet donc de caractériser l'objet final. Une fois que les deux trous noirs ont fusionné, qu'est-ce qu'ils ont donné? Eh bien, un nouveau trou noir. Et ce nouveau trou noir, il a une masse de 62 masses solaires. Et si vous faites la différence avec les deux masses initiales, eh bien, ce n'est pas la somme des deux masses initiales, il manque de la masse. Et qu'est devenue cette masse? Eh bien, en relativité générale, il n'y a pas de différence fondamentale entre la masse et l'énergie. C'est la fameuse relation E égale mc2. Et donc, la masse qui a disparu, elle correspond à une énergie mc2, qui est tout simplement l'énergie qui a été évacuée sous forme d'onde gravitationnelle. Et là encore, quand on regarde l'énergie qui a disparu, eh bien, ça colle parfaitement avec la prédiction de la relativité générale. Donc, si on résume cette première observation, eh bien, voilà ce qu'on a observé, deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre, qui correspondent à ce signal-là, une fusion et une relaxation, c'est ce signal-là. Et à titre indicatif, vous avez par exemple la vitesse relative des deux trous noirs l'un par rapport à l'autre. Vous voyez que c'est des vitesses comparables à la vitesse de la lumière, puisque c'est donné en unité de C, la vitesse de la lumière. Donc c'est cette courbe-là. Et puis vous avez la distance entre les deux trous noirs qui tend donc vers zéro à la fin quand les deux fusionnent. Alors, avant de vous parler de l'observation du mois d'août, je fais une petite parenthèse, puisque là, depuis le début de la conférence, je vous ai donc parlé un petit peu d'étoiles à neutrons et un peu plus de trous noirs. Et ça mérite peut-être une parenthèse, finalement. Qu'est-ce que c'est que ces étoiles à neutrons et ces trous noirs, et d'où viennent-ils? Et donc, ça m'amène à dire quelques mots sur la vie et la mort des étoiles. Alors, commençons avec une étoile qu'on connaît bien, qui nous est chère, le Soleil. Alors, le Soleil, c'est une étoile qui est en fait une énorme masse de gaz, principalement d'hydrogène et d'hélium, 2 10 puissance 30 kg, donc un 2 suivi de 30 zéros. Et la source d'énergie du Soleil, c'est le fait qu'au cœur du Soleil, il règne une température de plusieurs millions de degrés qui permet des réactions de fusion nucléaire. Les protons se combinent pour progressivement faire des noyaux plus gros. Les protons, c'est en fait l'hydrogène ionisé, se combinent pour faire des noyaux de plus en plus gros. Et le bilan final, c'est 4 protons se combinent pour faire un noyau d'hélium, parce qu'un noyau d'hélium, ça se compose de 2 protons et de 2 neutrons. Au passage, il y a donc 2 protons qui se sont transformés en 2 neutrons. Et ça, ça implique l'émission de neutrinos. C'est pour ça que le Soleil est une source de neutrinos. Alors, cette énergie est produite dans le cœur. Et ensuite, elle sert à chauffer le cœur. Il y a donc des photons très énergétiques dans ce cœur. Et ensuite, ces photons voyagent dans l'étoile et finissent par atteindre la surface. Là, ils sont moins énergétiques parce qu'à chaque fois, ils se mettent à l'équilibre thermique avec la matière. Et quand ils arrivent à la surface, ils s'échappent. Alors, de manière amusante, le Soleil fait 700 000 km. La distance Terre-Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Il faut plusieurs milliers d'années pour que le photon aille du cœur de l'étoile à la surface, parce qu'il se cogne en permanence sur la matière. Mais une fois qu'il est sorti de l'étoile, il met 8 minutes pour franchir les 150 millions de kilomètres et arriver sur Terre. En revanche, les neutrinos, eux, ils interagissent très peu avec la matière, et donc eux, ils mettent 2 secondes pour sortir de l'étoile et 8 minutes pour arriver sur Terre. Il y a donc un décalage de plusieurs milliers d'années entre les neutrinos et la lumière. Mais comme l'âge du Soleil est de 4,5 milliards d'années, on peut quand même détecter les deux. Et de manière très intéressante, la comparaison entre les deux nous permet de dire que, par exemple, le Soleil a très peu varié sur une échelle de temps d'environ 10 000 ans. Voilà. Alors, de manière également très intéressante, je vous ai dit qu'on détectait les neutrinos solaires, et donc ça confirme cette compréhension des étoiles. Les neutrinos, donc, se détectaient dans des grands détecteurs que je ne vais pas commenter, comme ici. Et vous avez ici une image qui est le Soleil en neutrinos. Donc c'est bien sûr des fausses couleurs, et l'intensité de la couleur code l'intensité du signal. Alors c'est très beau parce que l'image est centrée sur le Soleil, donc ça prouve indubitablement l'origine solaire de ces neutrinos. En revanche, la taille de la tache ici est de à peu près 40 degrés, donc on est très loin de résoudre le Soleil. Il y a encore une marge de progression énorme sur l'astronomie neutrino pour un jour vraiment résoudre le cœur nucléaire qui est beaucoup plus petit que le Soleil lui-même. On en est très très loin. Alors le Soleil va continuer à être globalement le même pendant 4,5 milliards d'années encore, et puis il va finir par épuiser son hydrogène. Et donc la fusion nucléaire va s'arrêter. À cause de ça, le cœur va s'effondrer sur lui-même, mais en s'effondrant, il va chauffer et il va atteindre une nouvelle température qui sera plutôt cette fois de l'ordre de plusieurs dizaines, voire la centaine de millions de degrés, et ça va permettre la fusion cette fois de l'hélium. Dans cette nouvelle phase, pour des raisons que je ne vais pas expliquer parce que c'est un peu plus compliqué, l'enveloppe de l'étoile va grossir et va se refroidir, et donc le Soleil va devenir une géante rouge. Et c'est à partir de là que ça se gâte sérieusement pour la Terre. Les modèles ne sont pas suffisamment précis pour savoir si la Terre est à l'intérieur de l'étoile ou juste à l'extérieur, à ce stade-là, mais dans les deux cas, en tout cas, du point de vue de la vie sur Terre, c'est sans doute très compromis. Alors cela dit, on considère généralement qu'on a d'autres problèmes plus urgents à régler, puisque celui-là n'arrivera que dans à peu près 5 milliards d'années. Voilà. Alors, pareil, au bout d'un certain temps, il n'y a plus d'hélium dans le cœur. Il va falloir moins de temps pour épuiser l'hélium, typiquement un peu moins de 2 milliards d'années. Et donc le cœur, de nouveau, va se contracter, mais cette fois, il ne va jamais atteindre une température suffisante pour amorcer un nouveau cycle de fusion. Et donc, il va devenir un petit objet très particulier, un type d'étoile très exotique qu'on appelle une naine blanche, qui a la propriété d'avoir la masse d'une étoile dans la taille d'une planète. Typiquement, ça va faire une masse solaire, un peu moins pour le Soleil, 70% de la masse du Soleil, dans la taille de la Terre. C'est donc un état de la matière extrêmement dense, avec plusieurs tonnes ou dizaines de tonnes ou centaines de tonnes au centimètre cube, donc dans une cuillère à café. D'accord. Alors ça, c'est le cœur. Le reste de l'étoile, lui, va être expulsé et va former un objet que les astronomes amateurs aiment bien observer, une nébuleuse planétaire. Donc vous avez ici un très bel exemple de nébuleuse planétaire. C'est beaucoup plus grand que le système solaire actuel. Et donc, s'il y a des astronomes autour de Proxima du Centaure, et s'il y en a toujours dans 5 milliards d'années, et s'ils observent dans la direction du Soleil, eh bien, ils verront sans doute quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Alors ça, c'est le destin de la majorité des étoiles, les étoiles comme le Soleil, et les étoiles jusqu'à une masse d'à peu près 10 fois la masse du Soleil. Alors, une naine blanche célèbre, puisque en ce moment, on voit assez bien la constellation d'Orion, eh bien, c'est bien sûr Sirius. Donc Sirius, c'est l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. Et en fait, on sait maintenant que Sirius est une étoile double. Donc l'étoile très brillante qu'on voit à l'œil nu, c'est l'étoile principale, Sirius A. Mais même dans le visible, avec le Hubble Space Telescope, on voit le compagnon, qui est très très faible, Sirius B. Et si vous regardez maintenant en rayons X, Sirius A est devenu très faible, et c'est Sirius B qui est devenu très brillant, c'est la naine blanche, qui est très très chaude, et donc qui rayonne plutôt en rayons X qu'en lumière visible. Donc voilà. Alors, vous voyez Orion, là où, ouais. Et donc Sirius est juste à côté. Alors ça, c'est les étoiles les plus courantes. Et puis après, il y a les étoiles massives, celles qui font plus de 10 masses solaires. Et c'est celles qui vont nous intéresser aujourd'hui. Les étoiles massives, le début de l'histoire est le même. Mais ensuite, à chaque fois qu'on épuise un carburant nucléaire, par exemple qu'on épuise l'hélium, eh bien on arrive à contracter le cœur suffisamment pour atteindre une température qui permet de démarrer un nouveau cycle de fusion. Donc après la fusion de l'hélium, on va avoir la fusion du carbone, du néon, de l'oxygène, etc., jusqu'au silicium. À chaque fois, on forme des noyaux de plus en plus élaborés, de plus en plus lourds, et la fusion du silicium, ça aboutit à du fer. Et il se trouve que le fer est un élément un peu à part dans la classification périodique des éléments, parce que c'est l'élément le plus lié. On ne peut pas faire de réaction nucléaire avec du fer, ou du moins, on ne peut pas en faire qui produise de l'énergie. Ça coûte de l'énergie de faire des réactions nucléaires avec du fer. Donc, il n'y aura plus de réaction nucléaire une fois qu'on a produit du fer dans le cœur. Donc, le cœur va s'effondrer. Cette fois, il n'y a pas de réaction nucléaire qui vont démarrer pour l'arrêter. Donc, l'effondrement continue. Typiquement, on parle ici d'un objet qui fait typiquement 1000 km au départ et qui a un rayon qui a une masse, on va dire, un peu plus d'une masse solaire. Il s'effondre sur lui-même. Et en fait, rien n'arrête l'effondrement jusqu'au moment où la matière est tellement dense que d'une part, les noyaux ne peuvent plus exister, ils libèrent les particules dont ils sont composés, qui sont des protons et des neutrons. Ça s'accompagne d'une transformation de tous les protons en neutrons, pour des raisons que je n'expliquerai pas si vous me posez la question. Et ça s'arrête au moment où les neutrons sont à des distances les uns des autres, qui sont de l'ordre du Fermi, 10-15 mètres, donc 0,140011 mètres, c'est-à-dire la taille typique d'un noyau d'atomes. Et à ce moment-là, l'interaction forte, qui est la force qui est responsable de la cohésion des atomes, se met à jouer. C'est une force très intense, mais qui n'existe qu'à très très courte distance. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre cette densité extrême pour qu'elle entre en jeu. Elle se met à jouer et elle provoque une pression suffisante pour arrêter le poids. Et quand ça s'arrête, et donc quand l'effondrement s'arrête, eh bien, l'objet ne fait plus que 10 km. Il est passé de 1000 km à 10 km. Et donc, c'est un objet absolument extrême, puisqu'il a la masse d'une étoile dans la taille du Grand Paris. 10 km. Donc, c'est ça qu'on appelle une étoile à neutrons. Alors, au passage, c'est assez spectaculaire, parce que cet effondrement de 1000 km à 10 km, il prend à peu près 100 millisecondes. Donc, c'est quand même assez spectaculaire. Alors, le reste de l'étoile n'a pas le temps de réagir en 100 millisecondes. Puis quand même, au bout d'un moment, ah, tiens, le sol a disparu à mes pieds. Donc le sol, l'étoile commence à s'effondrer elle-même et elle tombe sur le mur le plus dur de l'univers, puisque si vous mettez une masse solaire dans 10 km pour faire une étoile à neutrons, en fait c'est plutôt une masse solaire et demie dans 10 km, eh bien vous obtenez du milliard de tonnes au centimètre cube. Donc c'est vraiment le mur le plus dense de l'univers et donc ça va rebondir et d'une implosion initiale, on va passer à une explosion. Donc le cœur devient une étoile à neutrons et le reste de l'étoile rebondit et explose, et c'est ça qui fait une supernova. Alors vous avez ici une image d'un reste d'une étoile qui a explosé, qui est un objet très célèbre, c'est l'objet numéro 1 dans le catalogue de Messier, la nébuleuse du crabe, et qui est en fait le reste d'une étoile massive qui a explosé. Alors j'aime beaucoup cette nébuleuse, bon, d'abord pour des raisons esthétiques, mais aussi parce que c'est un très bel exemple de collaboration scientifique à 10 siècles d'intervalle. En effet, l'explosion de l'étoile a été observée sur Terre en 1054. Et elle a été rapportée par de nombreux astronomes, et les observations les plus détaillées ont été faites en particulier par les astronomes chinois et coréens. Ils ont en particulier noté soigneusement la position dans le ciel. Et il y a une telle continuité de la civilisation chinoise qu'on est tout à fait capable de convertir cette position en une position moderne. Et quand on pointe un télescope moderne dans cette direction, par exemple ici le Very Large Telescope, eh bien on observe cette nébuleuse. Et ce qu'on voit, c'est le reste de l'étoile qui a explosé. Les astronomes chinois, ils ont l'impression que c'était une nouvelle étoile qui apparaissait parce que c'était très brillant. C'était tellement brillant qu'on voyait cette étoile en plein jour et que la nuit, elle donnait une ombre aux objets. Et puis ensuite, ça s'est éteint. Mais en fait, ça, c'était juste au moment de l'explosion. Mais cette explosion a expulsé énormément de matière. Et cette matière, encore aujourd'hui, est à très grande vitesse. Elle continue à être en expansion à plus de 1000 km par seconde. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est l'onde de choc provoquée par l'explosion dans le milieu interstellaire, le gaz qui règne entre les étoiles. Et donc la lumière vient du fait que le gaz est porté à haute température au moment où l'onde de choc arrive. Exactement quand il y a une explosion dans l'atmosphère. Quand vous avez une explosion dans l'atmosphère, vous avez une onde de choc qui est le premier effet destructeur de l'explosion, donc un effet mécanique et un effet thermique d'élévation de température. Si c'est en plus une explosion atomique, vous avez en plus l'effet néfaste des rayonnements gamma. Mais même une explosion chimique, ça peut produire ces effets-là. Sauf que là, l'explosion est beaucoup plus violente puisque c'est une étoile qui a explosé. Alors, ce qui est très beau, c'est que on prédit que quand les étoiles à neutrons se forment, donc on prédit qu'il doit y avoir une étoile à neutrons dans cette nébuleuse, et quand les étoiles à neutrons se forment, elles se forment en tournant sur elles-mêmes à très très grande vitesse. Et ça se comprend bien. Allez au Palais de la Découverte, si vous n'y êtes encore jamais allé, mais je suppose que vous êtes là, c'est que vous êtes déjà allé au Palais de la Découverte. Et donc, allez dans la salle où on a le droit de s'asseoir sur un tabouret tournant, de prendre des petites haltères, et puis de tourner, et puis de rapprocher, d'enlever les... Ou alors, sinon, regardez les Jeux Olympiques d'hiver et regardez comment font les patineuses pour régler leur vitesse. Conservation du moment cinétique, si on s'effondre, on tourne plus vite. Et donc, l'étoile à neutrons tourne beaucoup plus vite que l'étoile initiale. Pour des raisons similaires, son champ magnétique est amplifié, et donc elle se comporte comme un aimant qui tourne très très vite sur lui-même. Et l'axe de l'aimant n'est pas orienté de la même façon que l'axe de rotation, de la même façon que sur Terre, les pôles magnétiques ne coïncident pas avec l'axe de rotation de la Terre. Et donc, vous avez un aimant qui tourne très très vite comme ça, et on peut montrer que dans ces conditions-là, il y a une émission radio qui est produite dans l'axe magnétique, donc c'est comme un faisceau radio qui tourne très très vite. Et si vous avez la chance d'être au bon endroit, vous passez une fois par période dans le faisceau et vous mesurez un pulse. Et c'est ce qu'on appelle un pulsar. Eh bien, on a trouvé un pulsar dans la nébuleuse du crabe. Je reviendrai sur l'image précédente après. Donc voilà les pulses du crabe. Et la période du pulse, c'est 33 millisecondes. Donc cet objet, qui fait une fois et demie la masse du Soleil, la taille de Paris, tourne sur lui-même en 33 millisecondes. Il n'y a que l'astrophysique qui peut donner ce genre de nombre. Et en fait, honnêtement, quand on travaille sur ce genre de sujet, pas plus que vous, on ne peut se faire une représentation mentale de ça. Ce qui nous sauve, c'est qu'on traduit tout ça en équation, et c'est le langage mathématique qui nous sauve. Mais c'est tellement différent de la matière ordinaire que c'est impossible de se faire une idée réaliste de ce que ça représente. Alors, on a une trace supplémentaire de la présence de l'étoile à neutrons dans le centre, qui est que quand on zoome sur l'intérieur de la nébuleuse en rayons X, eh bien, on voit une seconde nébuleuse. Donc on voit, elle est là, et là c'est un zoom. Et cette seconde nébuleuse indique que l'étoile à neutrons, outre son rayonnement radio, produit aussi un vent de particules qui vient ensuite cogner sur la nébuleuse principale. Et au moment du choc, il y a accélération de particules et donc rayonnement haute énergie, rayonnement de rayons X. Donc il y a une très belle cohérence et la nébuleuse du crabe, quelque part, elle valide parfaitement toute la compréhension du destin des étoiles massives qui a été élaborée à la fin du XXe siècle. Millisecondes. Voilà. Microsecondes, ce ne serait pas possible, parce que même pour une étoile à neutrons, à cette vitesse-là, eh bien, elle serait détruite par la force centrifuge. La vitesse limite, c'est des périodes de l'ordre de la milliseconde. Alors, ça, c'est une étoile à neutrons, et puis maintenant, il nous reste à parler de trous noirs. Eh bien, imaginons que le cœur qui s'effondre soit encore plus massif. Eh bien, dans ce cas-là, au cours de son effondrement, rien ne viendra arrêter l'effondrement. Même l'interaction forte ne sera pas assez forte pour créer une pression suffisante pour compenser le poids. Et dans ce cas-là, toute la matière va s'effondrer sur elle-même, jusqu'à produire un nouvel objet impossible à imaginer dans sa tête, qui est un objet où toute la masse est virtuellement au même endroit. Alors, on espère qu'un jour, avec des théories de gravité quantique, on pourra aller plus loin et peut-être donner une taille, mais en relativité générale, virtuellement, tout est en R égale 0. Voilà. Alors, ces objets ont la propriété d'avoir autour d'eux une région de l'espace qu'on appelle l'horizon, dont la lumière ne peut pas s'échapper. Donc, vous avez ici un schéma qui vous montre, donc cet axe-là, c'est le temps, ces deux axes-là, c'est l'espace, qui vous montre l'évolution de l'étoile du cœur de l'étoile au cours de son effondrement. Donc au départ, c'est un objet normal. Vous avez des chemins possibles de la lumière qui partent de la surface et qui vont à l'infini. Et puis, il y a un moment critique où se forme l'horizon. Et après, vous voyez, les rayons lumineux sont tellement courbés qu'ils ne peuvent pas s'échapper et qu'ils restent dans la région centrale. Donc la région centrale s'est déconnectée de nous. Elle ne peut plus nous envoyer d'informations. Et c'est ça le trou noir. Alors au voisinage d'un trou noir, il y a des effets très très forts de déformation des trajectoires lumineuses avec des effets de mirage gravitationnel. On a un grand spécialiste à l'IAP du calcul de ça, qui est Alain Riazuelo, donc qui produit ce genre d'image synthétique. Il imagine qu'il met un trou noir devant la Voie lactée, et donc vous voyez la Voie lactée s'enrouler, on la voit plusieurs fois, chaque étoile a des images multiples, etc. Il y a des effets extrêmement forts, dits de mirage gravitationnel, au voisinage d'un trou noir. Voilà. Alors, je ne vais pas détailler la figure qui suit, parce qu'elle va vous faire peur, mais un mot maintenant pour vous dire... Ok, je vous ai expliqué comment on formait les étoiles à neutrons, je vous ai expliqué comment on formait les trous noirs, comment on fait maintenant pour en avoir deux qui tournent l'un autour de l'autre. Bon, ben, un résumé rapide du schéma qui est là, c'est on part avec deux étoiles massives qui tournent l'une autour de l'autre, et ça, ça existe parce qu'il y a plus de la moitié des étoiles qui sont en couple, d'accord, les étoiles aiment vivre en couple. Et ici, c'est un couple qui va avoir une histoire très tumultueuse parce que chacun des deux va exploser. Et la condition pour qu'à la fin, on ait deux étoiles à neutrons qui tournent l'une autour de l'autre ou deux trous noirs qui tournent l'une autour de l'autre, c'est que le couple survive à ces deux explosions. Donc après, on peut traduire ça mathématiquement et on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une fraction des systèmes qui va survivre, mais il y en a qui survivent. Et on se retrouve avec deux étoiles à neutrons ou deux trous noirs. Et ensuite, si on était dans un monde purement classique, plus rien ne se passerait, mais la relativité générale nous dit que très progressivement, les deux objets se rapprochent en émettant des ondes gravitationnelles et finissent par fusionner. Alors, on peut maintenant dire un mot de ce que les gens, du point de vue théorique, attendaient comme émission au moment de la fusion de deux objets de ce type-là, et en particulier au moment de la fusion de deux étoiles à neutrons. Je suis désolé, je m'aperçois que j'ai laissé beaucoup de sigles en anglais. NS, c'est pour neutron star, donc c'est étoile à neutrons. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, les deux étoiles à neutrons rentrent en contact. Ça va donc former au cœur une région extrêmement dense, et on attend à ce que cette région extrêmement dense s'effondre en trou noir, que j'ai symbolisé ici intelligemment par un rond blanc. Il y a une petite alternative, parce qu'on ne connaît pas très très bien le détail du comportement de la matière ultra-dense, et donc si la région centrale qui s'effondre n'est pas trop massive, on ne peut pas complètement exclure que ce qui se forme, c'est une nouvelle étoile à neutrons encore plus massive. Il y a débat. Enfin, ce n'est pas qu'il y a débat, il y a incertitude théorique, on va dire plutôt. Toute la matière ne tombe pas dans cet objet central, disons, parce que c'est quand même le plus probable que c'est un trou noir. Toute la matière ne tombe pas dans ce trou noir. Une partie de la matière va être immédiatement éjectée un peu dans toutes les directions au moment de l'impact, au moment de la fusion. Alors je précise que le terme savant pour cette fusion, c'est coalescence. C'est pour ça que souvent vous voyez coalescence. Donc c'est ce que j'ai symbolisé avec ce nuage-là. C'est de la matière qui est expulsée à grande vitesse, mais pas trop grande vitesse. 40% de la vitesse de la lumière, et qui est un peu particulière parce que c'est de la matière qui vient d'être arrachée à des étoiles à neutrons. Elle est donc très riche en neutrons d'une part, et aussi en noyaux très lourds, parce que une étoile à neutrons, c'est une étoile un peu particulière qui a une croûte solide, vu la densité, et cette croûte, elle est composée de noyaux extrêmement lourds dans le groupe du fer. Et donc, c'est un endroit très particulier qui combine noyaux lourds, neutrons en abondance, très haute densité, très haute température, c'est toutes les conditions requises par les physiciens nucléaires pour un processus de réaction nucléaire extrêmement rare dans la nature qu'on appelle le processus de capture rapide des neutrons. Le principe est le suivant, vous partez d'un noyau lourd et comme il y a plein de neutrons autour, il capture très rapidement les neutrons qui passent. Il grossit donc pour devenir un noyau de plus en plus gros. Dans la matière ordinaire, il y a à peu près le même nombre de protons et de neutrons dans chaque noyau. Ici, il se retrouve donc très déséquilibré avec un nombre anormal de neutrons par rapport aux protons.
Mais si ça va suffisamment vite, il arrive quand même à grossir. Et puis quand même, au bout d'un moment, on s'aperçoit que les neutrons sont en excédent. Et donc, les neutrons vont se désintégrer en protons pour revenir vers un rapport normal proton-neutron, vers ce que les physiciens nucléaires appellent la vallée de la stabilité, qui est l'endroit où sont tous les noyaux stables. Donc, il y a une radioactivité qui ramène vers la vallée de la stabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est très rapide, on a eu le temps avant de capturer énormément de neutrons et donc de former des noyaux très lourds. Et c'est le seul processus connu pour former les noyaux chimiques les plus lourds. Donc ceux qu'on cite habituellement, c'est par exemple l'uranium, le platine ou l'or. Et alors je suis très content parce que ça faisait des années que quand je faisais ce genre de conférence, je montrais mon alliance en disant que je pensais que l'or de cette alliance avait été forgé dans une coalescence de deux étoiles à neutrons il y a quelques milliards d'années avant la formation du système solaire. Alors ma femme me disait à ce moment-là, mais j'espère que tu ne penses pas qu'à ça quand tu regardes ton alliance. Et en fait, vous allez voir qu'avec l'événement de cet été, on a maintenant de bonnes raisons de penser que ce n'était pas idiot de dire ça. Voilà. Alors, l'idée, c'est que cet éjecta est donc riche en noyaux lourds radioactifs. Il va donc chauffer, et comme tout corps dans la nature qui chauffe, il va rayonner pour se refroidir. Et ça va donc faire une émission lumineuse que la théorie prédisait dans le domaine visible et infrarouge, et qu'on appelait une kilonova, parce que la théorie prédisait que c'était beaucoup moins brillant qu'une supernova, mais mille fois plus brillant qu'une nova, qui est un phénomène d'explosion à la surface d'une naine blanche. Donc c'était première émission lumineuse attendue. Ensuite, on pense que toute la matière qui n'est pas dans le trou noir n'est pas expulsée dans cet éjecta, et qu'une partie reste capturée autour du trou noir en tournant à grande vitesse dans ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Et quand on a trou noir plus disque d'accrétion, on sait dans la nature que le système est capable d'éjecter de la matière sous forme d'un jet à des vitesses cette fois beaucoup plus rapides, plus de 99% de la vitesse de la lumière. Et quand on a un jet de ce type-là, eh bien on attend, si on est dans l'axe, ce qu'on appelle un sursaut gamma, qui est une émission extrêmement brillante dans le domaine gamma, dont je redirai un mot un peu plus tard. Donc c'est la deuxième contrepartie lumineuse qu'on attendait. Et puis après, tout ça doit freiner à cause du fait que ce n'est pas dans le vide, mais qu'il y a du gaz autour, très peu dense, mais il est là quand même. Et le freinage doit produire une rémanence qu'on doit observer plutôt en ondes radio, mais éventuellement aussi aux autres longueurs d'onde. Donc voilà un peu quelles étaient les prédictions jusqu'à il y a un an. Voilà. Alors je reviens un tout petit peu sur cette synthèse des éléments lourds, parce qu'il se trouve qu'à l'IAP, c'est une de nos spécialités, la compréhension des lieux astrophysiques où sont forgés les éléments chimiques. Et donc, c'est une spécialité qui a été importée à l'époque où Jean Audouze est devenu directeur de l'IAP, donc dans les années 80. Et ça me permet de vous dire un mot de l'origine de tous les éléments chimiques connus. Parce que c'est quand même intéressant, on est fabriqué avec des atomes, ces atomes c'est des noyaux ou des électrons, où ont été forgés les noyaux. Eh bien, on sait aujourd'hui qu'il y a en gros quatre groupes. Le premier groupe, c'est l'hydrogène et l'hélium. Eux, ils ont été forgés 3 minutes après le Big Bang. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Mais rien d'autre. Bon, si on est précis, il y a des traces infimes de lithium. Hydrogène, hélium. Donc, s'il n'y avait rien eu après, l'univers ne serait composé que d'hydrogène et d'hélium. Je parle de la matière ordinaire. Aujourd'hui, on ne parlera pas de matière noire. Alors, ensuite, il y a un deuxième groupe, c'est lithium, beryllium, bore. 3 noyaux très légers. Ceux-là, ils ne devraient pas exister, parce qu'ils ne sont pas formés pendant la nucléosynthèse primordiale, et ensuite, ils ne sont pas formés dans les étoiles. Mais ils sont quand même formés, mais vous voyez qu'ils sont très peu abondants. Ici, vous avez l'abondance en fonction de l'atome. Vous voyez que c'est des éléments extrêmement rares, ils sont très en dessous des autres. Ils sont formés par un processus très particulier, qui est que de temps en temps, il y a une particule super énergétique qui vient cogner une particule au repos du milieu interstellaire et qui la casse. Et donc, par exemple, vous cassez un noyau de carbone et vous fabriquez du beryllium ou du lithium ou du bore. Voilà. Comme c'est très rare, il y en a très peu. Ensuite, le troisième groupe, c'est du carbone au fer, le groupe du fer qui est là. Donc, quand on dit le fer, on met aussi le cobalt et le nickel dedans. Tout ça, c'est le groupe du fer. Ces noyaux-là, ils sont entièrement dus à la nucléosynthèse dans les étoiles dont je vous ai parlé tout à l'heure, toutes ces réactions nucléaires. Bien sûr, il n'y a que les étoiles massives qui viennent jusque-là. Les étoiles comme le Soleil, elles font que de l'hélium et un peu plus massives, elles s'arrêtent par exemple au carbone et à l'oxygène. C'est pour ça qu'il y a une décroissance générale quand on va de là à là. Ensuite, il y a des oscillations, et ça, ce n'est pas de l'astrophysique, c'est de la physique nucléaire. Dans ces noyaux, il y en a qui sont plus stables que d'autres. Voilà. Et puis après, au-delà du pic du fer, il y a ce qu'on appelle les éléments lourds, et c'est là qu'on comprend beaucoup moins bien les choses. Alors, on avait identifié deux processus nucléaires, le processus de capture rapide des neutrons que je vous ai décrit et le processus de capture lente des neutrons, qui est la même chose, mais on capture moins vite et donc ça se désintègre plus vite. Le processus de capture lente, on sait où il se produit dans certaines phases avancées de la vie des étoiles et il produit une partie de ses éléments, mais pas les plus lourds, et même dans les moins lourds, il ne les produit pas tous. Donc il faut absolument qu'il y ait un endroit où le processus de capture rapide ait lieu. Et jusqu'à l'année dernière, on ne savait pas quel était cet endroit. On hésitait entre deux possibilités, parce qu'il n'y a pas 50 systèmes astrophysiques capables de réunir les bonnes conditions, une supernova ou une coalescence de deux étoiles à neutrons. Voilà, donc ça concerne tous ces éléments, y compris justement le platine, l'or, l'uranium, le thorium. Voilà. Alors, je ne vais pas commenter en détail, mais je mentionne que justement, à l'IAP, puisqu'on travaille sur ce genre de choses, avec mes collègues, on avait comparé l'évolution attendue dans l'univers de la quantité d'éléments lourds, alors pas tracé avec l'or, parce qu'on ne sait pas facilement mesurer les quantités d'or dans les étoiles, mais avec l'europium, on sait mesurer l'europium dans les étoiles, et on avait calculé l'évolution attendue dans le scénario supernova et dans le scénario étoile à neutrons, et on avait déjà montré que ça marchait beaucoup mieux pour reproduire les observations dans le scénario coalescence d'étoiles à neutrons, donc on est très content. Et le point, c'est que pour remonter à cette évolution, on mesure l'europium dans plein d'étoiles, et dans ces étoiles, on est capable de dire certaines sont très âgées, d'autres sont très jeunes, et donc c'est comme reproduire l'histoire de l'enrichissement en europium de l'univers. Voilà. Alors, un dernier mot sur les sursauts gamma. Les sursauts gamma, c'est des phénomènes extrêmement, extrêmement brillants détectés en rayon gamma, qui ont des durées très brèves, mais il y a quand même deux groupes, un groupe plutôt autour de 100 millisecondes, un groupe plutôt autour de 10 secondes, et on pense que c'est donc lié à des jets relativistes émis par un trou noir avec un disque d'accrétion et un jet qui pointe vers nous. Ils sont suivis d'une rémanence observée des X au radio qui est liée au freinage de ce jet par le milieu extérieur, et donc ils sont observés communément par plusieurs satellites, Fermi, Swift. Et le scénario, ben, voilà, je le résume ici, c'est donc un trou noir qui se forme avec un disque d'accrétion, un jet relativiste qui est émis. Dans ce jet, il y a des processus de dissipation, par exemple des ondes de choc qui produisent le sursaut gamma proprement dit. Et là, on est spécialiste de ça à l'IAP avec mon collègue Robert Moscovitch, on a plus ou moins forgé ce modèle. Et puis ensuite, le jet est freiné par le milieu extérieur et c'est ça qui produit la rémanence observée en rayons X et en rayons gamma. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux groupes de sursauts et on s'attend à ce que ce soit plus ou moins la même physique que je viens de décrire, mais avec juste deux scénarios de formation différents pour le système initial, trou noir et disque. Et il se trouve qu'on a justement deux possibilités, un effondrement d'une étoile très massive ou la coalescence de deux étoiles à neutrons. Donc on s'attendait à ce que les sursauts les plus longs soient liés à l'effondrement d'une étoile massive et les sursauts courts à la coalescence. Alors au passage, je signale que les jets relativistes, ça peut paraître bizarre, mais c'est communément observé. Vous avez ici un exemple d'un noyau actif de galaxie avec un jet qu'on observe ici en radio, donc en grand détail. Vous voyez le jet. Le jet cogne contre le gaz extérieur et donc freine. Donc ça, c'est la zone de choc où il y a le freinage. Et on sait que ce jet est relativiste, qui va à une vitesse proche de la vitesse de lumière, parce qu'on ne voit qu'un jet alors qu'on voit deux zones de freinage. Donc en fait, il y a aussi un jet là, mais on ne le voit pas. Et l'idée, c'est que quand vous êtes à vitesse faible, si vous rayonnez, vous rayonnez dans toutes les directions. Mais quand vous êtes à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, si vous rayonnez, votre rayonnement part uniquement vers l'avant. Et donc il y a deux jets, il y en a un qui vient vers nous et donc on voit ses photons, et un qui s'éloigne de nous et donc on ne voit pas ses photons. Puis une fois que ça cogne, ça freine, ça redevient à des vitesses très faibles, et donc on voit la zone de freinage des deux côtés. Donc là vous voyez la relativité restreinte en action à l'échelle d'une galaxie. Très jolie comme observation. Alors pour les sursauts gamma, long, on a pu montrer pas mal d'observations que je ne détaille pas, qui prouvaient qu'effectivement l'association avec les effondrements d'étoiles massives était vraie. Et pour les sursauts courts, jusqu'à il y a un an, on était obligé de supposer qu'ils étaient associés aux coalescences. On avait quelques indices indirects, en particulier le fait que ça pouvait se produire dans n'importe quel type de galaxie, des galaxies qui forment des étoiles, des galaxies qui n'en forment pas. Et c'est assez attendu parce qu'entre la formation d'étoiles et la formation des deux étoiles à neutrons, il y a ensuite un temps très très long avant que les deux étoiles se rejoignent. Donc on a perdu la mémoire qu'il y a eu de la formation d'étoiles dans la galaxie. Mais c'était quand même assez indirect. Et donc j'en arrive à la dernière partie avec l'événement du 17 août 2017. Alors quel était le statut des détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO et Virgo au mois d'août 2017? Eh bien, la première nouveauté, c'est qu'il n'y avait pas que LIGO, il y avait Virgo, l'instrument européen, qui avait rejoint la zone de détection. Et donc, on avait maintenant trois détecteurs au lieu d'un. Et vous avez ici la courbe de sensibilité des trois détecteurs. Donc, Virgo est là. Vous voyez qu'il n'est pas encore aussi sensible que les deux détecteurs américains, mais qu'il s'en est énormément rapproché. Et donc, il y a des sensibilités comparables. Virgo entrait dans la zone où il pouvait lui aussi détecter. Trois jours avant le 17 août, donc si je ne me trompe pas, le 14 août, a eu lieu justement la première triple détection. Un même système détecté par les trois détecteurs. C'est à nouveau un système de deux trous noirs comme ceux que j'ai déjà décrits. Vous voyez le signal dans les trois détecteurs. Ici, c'est le signal Virgo. Donc on savait que les trois détecteurs marchaient très bien, y compris Virgo. Alors au passage, ça fait donc maintenant cinq systèmes de deux trous noirs qui ont été observés. Ils sont tous très massifs. Et ça pose donc un vrai problème de formation de ces systèmes, parce que tous les autres trous noirs qui étaient connus jusqu'à présent étaient beaucoup moins massifs. Donc là, il y a une vraie question astrophysique qui est posée. Alors on arrive au 17 août 2017, à 12h41 de temps universel, c'est-à-dire à 14h41 heure française. Tout commence par une alerte reçue dans tous les observatoires du monde, disant « le satellite Fermi vient de détecter un sursaut gamma court ». Voilà le sursaut gamma. Rien qu'avec la figure, on voit qu'il est très faible. Ça, c'est du bruit. Ça, c'est le sursaut gamma. Vous voyez qu'il n'y a pas une grosse différence. Et en fait, ici, il le mesure avec ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit. Et il est de 4,8. Et généralement, on considère qu'il y a une détection claire qu'au-delà de 5. Donc, c'est un sursaut extrêmement faible. S'il n'y avait rien eu après, ce sursaut serait oublié depuis très longtemps. Personne ne serait amusé à chercher à trouver la rémanence d'un sursaut aussi faible. Mais quelques minutes plus tard, les gens de la communauté LIGO Virgo voient apparaître un signal sur leurs écrans disant « une détection vient d'avoir lieu », et cette fois une détection d'un signal gravitationnel. La détection a eu lieu dans deux des trois détecteurs, les deux détecteurs américains. Et elle est détectée de manière automatique dans le premier détecteur, et dans le deuxième, elle n'est pas détectée de manière automatique, mais quand on regarde à l'œil, on s'aperçoit que c'est parce qu'il y a eu un petit tremblement de terre au mauvais moment, mais le signal est très clairement présent derrière. Et donc, on sait corriger ça. Donc, en fait, la détection a bien eu lieu dans les deux détecteurs. Et on voit tout de suite que le signal dure très longtemps. Dans le cas des coalescences de deux trous noirs, typiquement, ça dure moins d'une seconde. Ici, ça dure 100 secondes. Et avec la théorie des ondes gravitationnelles, on déduit immédiatement que les deux objets qui coalescent sont beaucoup moins massifs. Donc, deuxième alerte, c'est sans doute deux étoiles à neutrons. Alors là, l'excitation monte parmi ses nombreux collègues. Et en plus, très rapidement, ils s'aperçoivent qu'il y a eu cette alerte d'un sursaut gamma court. Et on attendait une association onde gravitationnelle liée à la fusion de deux étoiles à neutrons et sursaut gamma court. Et quand ils regardent précisément la chronologie des événements, ils s'aperçoivent que le sursaut gamma a eu lieu exactement 2 secondes après le signal gravitationnel, donc après la fusion des deux étoiles à neutrons. Alors à ce stade-là, ils sont tous d'accord pour considérer que c'est suffisamment important pour alerter toute la communauté scientifique. Et ils génèrent eux aussi une alerte. Elle est générée 40 minutes après la coalescence. On peut espérer que dans le futur, quand ça deviendra plus banal, le délai soit encore plus court. Mais là, il a fallu 40 minutes pour tout valider. De manière très intéressante, je vous ai dit, le signal gravitationnel permet de déterminer une position dans l'espace et aussi une distance. C'est une carte 3D. Alors la distance, ici, est beaucoup plus proche que dans le premier événement, 40 mégaparsecs, 130 millions d'années-lumière. Et grâce au fait qu'on a maintenant 3 interféromètres, eh bien, la boîte d'erreur est beaucoup plus petite. Je vous avais parlé tout à l'heure de 900 degrés carrés. Ici, s'il n'y avait que les deux interféromètres de LIGO, ça serait encore 200 degrés carrés. Mais en fait, une fois qu'on a la distance, on s'aperçoit que Virgo aurait dû être assez sensible pour détecter la source. Mais un interféromètre, ça a des zones d'ombre sur les bisectrices. Et donc, ça veut dire que la source, par malchance, est pile dans la région où Virgo n'est pas du tout sensible. Et ça permet donc d'éliminer une grande partie de la boîte d'erreur de LIGO. Et il reste juste une toute petite boîte d'erreur, enfin 30 degrés carrés, ça reste grand pour un astronome. Mais on sait en plus qu'on est à 40 mégaparsecs là-dedans. Donc cette carte du ciel 3D, elle est envoyée à 17h54, 5 heures après la coalescence, à tous les observatoires du monde. Et là, ça a été une course formidable pour essayer de détecter une lumière associée. Alors c'est très beau parce qu'à la fin, cette lumière a été détectée. Et au total, l'article qui rapporte cette campagne d'observation, c'est plus de 2000 chercheurs dans je ne sais pas combien de pays, plus d'une vingtaine de pays, je pense, qui appartiennent à 70 collaborations différentes, certaines énormes, comme LIGO Virgo, qui est plusieurs centaines de personnes, Certaines, c'est des groupes de 2 ou 3 personnes. Par exemple, notre collègue de l'IAP, Florence Duré, se trouvait qu'elle était au Chili en train d'observer et elle a reçu un coup de téléphone du directeur de l'observatoire en disant « Il y a un phénomène extrêmement important en cours. Est-ce que tu peux nous donner une demi-heure de ton temps pour observer cette source ?» Ce qu'elle a bien sûr fait. Et des gens comme Florence, il y en a eu plein dans le monde qui ont interrompu les observations en cours pour observer ce phénomène. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on sait que la boîte d'erreur fait 30 degrés carrés et qu'on est à 40 mégaparsecs, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a 50 galaxies uniquement dans l'univers, dans cette région. Donc, on peut regarder successivement ces 50 galaxies et on s'aperçoit que dans l'une d'entre elles, il y a une petite source qui est apparue qui n'était pas dans les images d'archives. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, elle est là. C'est très faible, mais c'est présent. Alors, voilà une image qui le montre mieux. Donc, vous avez la galaxie, qui au passage est une galaxie elliptique, enfin plutôt lenticulaire précisément. Donc une galaxie qui ne forme pas d'étoiles, mais ça, ce n'est pas gênant pour les coalescences, c'est plutôt attendu. Et la nouvelle source est là. Cette source-là, ce point, n'est pas dans les images d'archives. Les autres points brillants, c'est des étoiles d'avant-plan. D'accord ? Alors, ça a été détecté 11 heures après la coalescence, alors que l'alerte a été générée 5 heures après. Ce n'est pas parce que les gens ont mis du temps à réagir, c'est parce qu'en fait, il a fallu attendre qu'il fasse nuit au Chili pour pouvoir observer. Parce que voilà, c'était déjà trop tard pour les autres observatoires et c'était encore trop tôt pour le Chili. Voilà. Donc de temps en temps, l'astronomie, c'est aussi ce genre de contrainte. Voilà. Et ça a été détecté en premier par la collaboration SWOP, mais en fait, il y a 5 autres groupes qui, indépendamment, ont fait la détection quasiment au même moment, dans un intervalle d'une heure. Alors, cette source a été ensuite suivie, comme jamais aucune source transitoire n'a été suivie dans l'histoire de l'astronomie. Il y a des centaines de points de photométrie, il y a une dizaine de spectres, et ça colle parfaitement avec la prédiction théorique de la kilonova. Donc pour la première fois, on a observé une kilonova, ce qui d'une part confirme une des émissions lumineuses attendues avec la fusion, et confirme qu'il y a bien une radioactivité associée à la nucléosynthèse d'éléments lourds, donc confirme que vraisemblablement des éléments comme l'or sont forgés dans ces événements. Alors voilà la succession des événements. Si on remet tout dans le bon ordre, ce qui se passe, c'est d'abord les ondes gravitationnelles, ensuite le sursaut gamma, ensuite on détecte la kilonova, et puis très tardivement, on a détecté aussi une rémanence en rayons X et en rayons gamma, mais là, on est plus d'une semaine après. En rayons X et en rayons en ondes radio. Voilà. Donc, en résumé, vous avez ici une petite simulation qui est une simulation d'artiste, ce n'est pas une vraie simulation scientifique, qui symbolise toute la succession d'événements qu'on a vus. Donc, je vais la remettre parce que je ne parle pas assez vite par rapport à la succession des événements. Donc, les deux étoiles tournent autour de l'autre. C'est là qu'il y a l'émission d'ondes gravitationnelles. Elles fusionnent. Après la fusion, il y a un premier éjectat qui est responsable de la lumière visible et infrarouge de la kilonova et un jet qui est responsable du sursaut gamma. Alors, comme le temps passe, je vais sauter ce transparent-là et je vais montrer celui-là. Ça, c'est le signal gravitationnel. Il permet, comme pour les trous noirs, de caractériser finement le système initial. C'est en ça que c'est très complémentaire de la lumière qui ne renseigne que sur ce qui s'est passé après la fusion. Là, on a une information sur avant. C'est très rare en astronomie d'avoir une information à la fois sur le progéniteur de l'explosion et sur le résultat de l'explosion. C'est très, très rare. Et donc, en particulier, on a les mesures des masses. Donc, c'est tout à fait compatible avec des étoiles à neutrons. Il y a une toute petite probabilité qu'un des deux objets soit un trou noir, mais c'est très peu probable. En fait, c'est presque trop beau parce que les masses moyennes des deux étoiles à neutrons, c'est 1,4 masse solaire. D'ailleurs, ce qu'il y a dans tous les livres d'astrophysique qui parlent d'étoiles à neutrons, la masse typique qu'on prend pour une étoile à neutrons, c'est toujours 1,4 masse solaire, et c'est ça qu'on mesure ici. De manière intéressante, on a aussi une contrainte sur l'angle de vue. On sait sous quelle orientation on regarde le système. Et puis, dans la phase finale de la spirale des deux étoiles à neutrons, elle commence à se déformer légèrement à cause de l'effet gravitationnel de l'autre. Et donc, ça donne une contrainte très intéressante sur le comportement de la matière ultra-dense, dont je vous disais qu'il n'était pas très, très bien compris. Alors ça, c'est le signal gravitationnel. Donc l'apport du signal gravitationnel, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il caractérise le système binaire initial. En revanche, malheureusement, on n'a pas détecté le signal de relaxation après la fusion. Donc on n'est pas capable de dire si c'est un trou noir ou une étoile à neutrons qui s'est formée après la fusion. On le saura peut-être plus tard dans d'autres événements. Ça, c'est la kilonova. Est-ce que j'arrive à lancer l'animation? Voilà. Ça, c'est le spectre de la kilonova au cours du temps. Donc, vous avez la longueur d'onde ici. Le bleu est là, le rouge est là. Donc, vous voyez que c'est exactement ce qu'on attend. Un refroidissement avec une intensité qui diminue et un rougissement. On passe du bleu au rouge et à l'infrarouge. À la fin, on n'est même pas rouge, on est infrarouge. On infrarougit, n'est-ce pas? Et ça, c'est exactement ce qu'on attendait pour une kilonova. Si on va un peu plus en détail dans les spectres, de manière très intéressante, on voit des traces d'absorption qui sont dues à des éléments lourds, justement les fameux éléments lourds qu'on attend, au césium et au tellure. Malheureusement, on n'a pas des traces d'or ou d'uranium, mais ça, c'est des éléments extrêmement rares. Et puis, on a une autre confirmation qui est que quand on modélise finement ce rougissement, on s'aperçoit qu'à la fin, la matière est très, très opaque. Et ça, la matière ordinaire n'est jamais aussi opaque que ça. Il faut des éléments très lourds pour avoir cette opacité. Et en particulier, il faut des éléments du groupe des lanthanides, qui est justement dans les terres rares, dans les éléments lourds. Alors, une application intéressante du fait qu'on a onde gravitationnelle et kilonova, c'est qu'avec la kilonova, on a la galaxie. Et donc, on peut faire de la cosmologie. Les ondes gravitationnelles donnent la distance. La lumière de la galaxie donne le décalage vers le rouge de cette galaxie. Et donc, on a pu faire une mesure de la constante de Hubble, c'est-à-dire le taux d'expansion de l'univers, avec cette observation. Alors malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas concurrentiel par rapport aux méthodes traditionnelles qui sont le rayonnement fossile et les supernovae de type 1A, mais on peut espérer que dans l'avenir, si on a des dizaines d'événements de ce type-là, ça deviendra compétitif. Et c'est intéressant parce que pour l'instant, il y a une petite tension entre les deux techniques traditionnelles qui ne donnent pas exactement la même valeur. Alors c'est quand même une petite différence. Moi, quand j'étais en DEA avec Guillaume, la valeur, c'était entre 50 et 100. Donc là, on est à des nuances autour de 70. Donc on a quand même progressé. Mais voilà. Alors je saute ça parce que j'étais trop long. Alors le dernier signal que je n'ai pas commenté, c'est le sursaut gamma. Donc si je résume, le signal gravitationnel nous caractérise la binaire initiale. La kilonova nous caractérise le premier éjecta non relativiste et la nucléosynthèse d'éléments lourds qui a lieu dedans. Et maintenant, le signal gamma. Alors je vais vous montrer... Vous allez entendre, puisqu'il y a une analogie entre onde gravitationnelle... Alors, si, ça veut bien démarrer. Donc, vous allez entendre le signal gravitationnel transformé en onde sonore, puisque les fréquences sont les mêmes. C'est moche. Et vous allez voir quand le sursaut gamma apparaît après. Mais là, bien sûr, c'est juste, on a mis une sonnette, parce que c'est difficile de convertir des fréquences gamma en fréquences audibles. Et voilà, le sursaut gamma est arrivé. Voilà, alors c'est quand même assez beau parce que ça, c'était une prédiction. Le premier à avoir prédit qu'il y avait un sursaut gamma associé à une coalescence d'étoiles neutrons, c'est Pachinski en 1989. Donc c'est quand même un bel exemple du pouvoir prédictif de la physique. Hein. On savait qu'il devait y avoir un sursaut gamma. Alors après, quand on regarde dans les détails, c'est pas aussi beau que ça. Alors on va commencer par ce qui est beau. Ce qui est beau, c'est qu'il y a un délai de moins de 2 secondes. En fait, c'est 1,7 secondes entre l'onde gravitationnelle et le sursaut gamma. Et la source, elle est à 130 millions d'années-lumière. Donc, le signal a mis 130 millions d'années pour nous parvenir, et à la fin, le décalage est de moins de 2 secondes entre le signal gravitationnel et l'onde lumineuse. Ça met donc une contrainte très très forte sur la vitesse de propagation des ondes gravitationnelles, qui doit donc être extrêmement proche de la vitesse de la lumière et qui est compatible avec la vitesse de la lumière. Et ça, c'est parfaitement ce qu'a attendu par la relativité générale, et ça met un test très très fort sur des théories alternatives. Alors après, ce qui est moins beau, c'est que le sursaut gamma est atypique. Vu sa distance, beaucoup plus proche que les sursauts gamma habituels, il devrait être beaucoup plus brillant. Donc les gens comme moi, actuellement, avec nos collègues, on s'interroge et on essaye de comprendre pourquoi le sursaut gamma n'est pas aussi brillant qu'il devrait. Et c'est peut-être parce qu'on ne le voit pas de face, mais sous une orientation un peu différente. Voilà, alors je vais sauter ça parce que j'ai été trop long. Et je vais juste dire un mot des étapes suivantes. Pour un peu mieux comprendre la géométrie de ce qu'on voit, eh bien, on peut utiliser le dernier signal que je n'ai pas commenté, qui est ce signal radio et X très tardif. Et ça, l'information à retenir, c'est que pour l'instant, on ne comprend pas bien, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on continue à le détecter des mois après. La source est toujours là. Donc, on va avoir un signal très très long à analyser, qui est sans doute lié au freinage, mais au freinage de quoi ? Est-ce que c'est le freinage de l'éjecta de la kilonova ? Est-ce que c'est le freinage de l'éjecta responsable du jet ? Et du sursaut gamma, c'est pas clair, mais ça sera de plus en plus clair au fur et à mesure que les données vont s'accumuler, et ça permettra de mieux comprendre la source. Ensuite, quel est l'avenir ? Actuellement, les interféromètres gravitationnels ne détectent plus parce que les gens sont en train de travailler pour encore améliorer leur sensibilité. Et la prochaine prise de données est prévue fin 2018. Alors c'est très intéressant parce qu'en 2 ans, on a déjà 6 sources et on n'a pas encore atteint la sensibilité ultime. Donc, il est probable que dès la prochaine prise de données, il y aura de nouvelles sources. Et donc, c'est super intéressant parce que quand l'astronomie multimessager avec les neutrinos est apparue, c'était très excitant, mais encore aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, on n'a encore que 2 sources, le Soleil et une supernova. Là, en 2 ans, on a déjà 6 sources et on en attend beaucoup d'autres dans les années à venir. Donc, c'est un nouveau type d'astronomie multimessager. Cette fois, ce n'est pas neutrino et lumière, c'est onde gravitationnelle et lumière, mais qui est sans doute beaucoup plus prometteur sur le court terme parce qu'on va très rapidement avoir beaucoup plus de sources. Donc, qu'est-ce qu'on attend, par exemple? On a déjà détecté 2 trous noirs. On a déjà détecté 2 étoiles à neutrons. Est-ce qu'il y a des couples mixtes, étoiles à neutrons, trous noirs? Et est-ce qu'on peut les détecter? Première question. On n'a pas pu détecter le signal après la fusion de 2 étoiles à neutrons. Est-ce qu'avec une meilleure sensibilité, un jour, on pourra le détecter? Si oui, ce serait très intéressant, parce que cette fois, on pourrait vraiment dire si ce qui se forme après la fusion, c'est un trou noir ou une étoile à neutrons très massive. Si on voit d'autres coalescences d'étoiles à neutrons, on ne sera jamais sous les mêmes angles. Et ça va être très intéressant, parce que c'est un système qui n'a pas du tout la symétrie sphérique. Il y a le plan orbital, il y a l'axe d'émission du jet. Donc, voir plusieurs systèmes sous plein d'angles différents, c'est une façon de reconstruire la géométrie globale très efficace. Et puis après, bien sûr, va se poser la question du taux de ces événements, du domaine de masse exploré, pour comprendre ensuite les scénarios de formation de ces systèmes. Je peux déjà dire que, autant pour les trous noirs, les masses observées ne sont pas normales par rapport aux trous noirs qui étaient déjà connus, autant ici, les 2 étoiles à neutrons qui ont fusionné, elles sont tout à fait dans le domaine de masse habituel des étoiles à neutrons. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir d'autres instruments qui vont rejoindre Virgo LIGO. Il y a un projet en construction au Japon, il y a un projet dont la construction est décidée mais n'a pas commencé en Inde. Et donc, d'ici quelques années, on aura peut-être 4 interféromètres, voire 5 interféromètres. À chaque fois qu'on a un interféromètre de plus, on réduit la taille des boîtes d'erreur et donc on augmente la probabilité de pouvoir détecter la lumière associée. On va aussi se donner les moyens d'avoir des moyens de rechercher encore plus efficacement cette lumière associée. Et l'un des projets est porté, entre autres, par une équipe de l'IAP. C'est le projet SVOM. C'est un gros projet spatial entre la France et la Chine, avec plein de laboratoires impliqués, dont l'IAP. Et c'est un satellite qui a la propriété de pouvoir pointer très rapidement des télescopes dans une certaine direction en réaction à une alerte, par exemple à une alerte gravitationnelle. Donc c'est un très bon moyen de rechercher la contrepartie lumineuse de manière rapide. Et donc, pour terminer, eh bien, j'ai listé ici toutes les premières associées à cet événement du mois d'août. C'est donc la première détection d'une fusion de 2 étoiles à neutrons en onde gravitationnelle. C'est la première fois qu'on a une association onde gravitationnelle et lumière pour la même source. C'est la confirmation qu'il y a une association sursaut gamma, fusion d'étoiles à neutrons et onde gravitationnelle. C'est la confirmation qu'il y a bien une kilonova associée aux fusions d'étoiles à neutrons et que c'est la signature de la synthèse d'éléments lourds. Ça a permis de faire des tests de relativité générale avec le délai entre les ondes gravitationnelles et la lumière. Ça a permis de faire de la cosmologie avec la mesure de la constante de Hubble. Et puis, on pourrait dire, etc., il y a plus d'une centaine d'articles qui sont parus depuis l'événement du mois d'août et ce n'est pas fini. Donc, ce qui est vraiment beau, c'est toutes ces premières, toutes ces confirmations de prédictions théoriques, toutes ces nouveautés en termes de détection, et le fait qu'on attend beaucoup d'autres événements dans les années à venir. Donc, c'est un nouveau domaine de l'astronomie qui va émerger, et c'est sur cette perspective très prometteuse que je vais m'arrêter et vous remercier pour votre patience et votre attention.
Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des remarques?
Vous
levez le doigt, je vous transmets le micro.
Le
premier ici.
Bonjour. Bonjour. J'aurais 2 questions, mais très rapides. D'abord, est-ce qu'il y a une limite à la détection de phénomènes qui peuvent engendrer des ondes gravitationnelles?
Oui.
Et puis, une autre question, je voulais juste savoir ce qui se passait si on avait apparaissé devant nous une cuillère à café d'étoiles à neutrons.
Ah oui. Alors, si vous avez. En fait. La plupart des sources astrophysiques émettent des ondes gravitationnelles avec une intensité qui est beaucoup trop faible pour être détectable même dans un futur lointain. D'accord ? En revanche, on peut imaginer d'autres sources que les coalescences dans un futur, disons, intermédiaire. C'est en particulier justement les explosions d'étoiles, les supernovas. Si l'explosion est parfaitement symétrique, il n'y a pas d'onde gravitationnelle. Mais s'il y a une petite dissymétrie, par exemple parce que l'étoile qui explose a une rotation, eh bien, ça peut produire des ondes gravitationnelles. Donc, on peut un jour espérer détecter ça. Alors, c'est beaucoup plus difficile à détecter, donc il faut que l'objet soit très, très proche. Donc, par exemple, s'il y a une supernova dans notre galaxie, ce qui serait un phénomène tout à fait exceptionnel, très intéressant, qui est attendu par tous, parce que c'est de l'ordre d'une par siècle, mais la dernière observée, c'est celle de Kepler. Et vu l'actualité de ce domaine depuis 2 ans, on peut peut-être penser que c'est pour 2018, mais ça, c'est juste une remarque en passant. Mais s'il y a une supernova dans la galaxie, on pourra détecter le signal d'onde gravitationnelle. Après, on peut aussi imaginer, dans ce signal, il y a un signal qui est lié à l'explosion lui-même, et puis il y a un signal qui est lié au fait que quand l'étoile à neutrons se forme dans l'effondrement, elle vibre un peu et elle émet des ondes gravitationnelles. Enfin, voilà, il n'y a pas 50 000 sources. Après, plus tard, dans les années 2034, si ma mémoire est bonne, on va lancer un interféromètre dans l'espace. C'est LISA. Donc l'idée, c'est de s'affranchir du bruit sismique pour pouvoir aller à basse fréquence. Qu'est-ce que j'ai fait ? On va pouvoir aller à basse fréquence. Et donc, il faut un interféromètre dans l'espace. Et dans ce cas-là, on peut faire des bras très très longs, donc de millions de kilomètres. Ne me demandez pas comment on construit ça, je ne suis pas spécialiste. Il faut régler comme ça des satellites en formation avec des distances connues extrêmement précisément. Et ça permettra de détecter un signal gravitationnel de très basse fréquence. Donc ça permettra de détecter des fusions de trous noirs, mais cette fois des trous noirs supermassifs. Là, tous les trous noirs, c'est des trous noirs stellaires. Et donc ça renseignera sur des mécanismes dans les galaxies. En particulier, quand deux galaxies fusionnent, eh bien, leurs trous noirs supermassifs fusionnent. Et donc c'est ça qu'on peut observer. Et ça permettra de mieux comprendre comment ces trous noirs supermassifs sont formés.
Et la distance dans l'univers.
Ça sera, disons, à des distances nettement extragalactiques, mais ce n'est pas dans tout l'univers observable. Et puis, si ça continue à progresser, quelle est la limite ultime ? Si un jour on est sensible à tout l'univers, ce qui est très loin d'être le cas, eh bien, on peut un jour espérer, mais c'est vraiment un futur qu'on est incapable de dater, parce que c'est complètement inenvisageable avec les techniques actuelles, détecter un jour le signal gravitationnel ultime. C'est le rayonnement fossile d'ondes gravitationnelles. Vous savez qu'il y a un rayonnement fossile lumineux, mais il y a aussi un rayonnement fossile gravitationnel qui est émis avant le rayonnement lumineux, dans la période d'inflation, donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Mais c'est pour l'instant complètement illusoire d'espérer le détecter. En fait, on le détecte, on en cherche des traces indirectes dans le rayonnement fossile lumineux lui-même, avec la recherche de la polarisation du rayonnement fossile. Mais le rayonnement fossile gravitationnel, c'est la limite ultime. Voilà. C'est le plus loin qu'on peut voir. Voilà. Mais on est très très loin d'atteindre cette limite pour l'instant. Et votre autre question, c'était qu'est-ce qui se passe si on met une cuillère à café ? Il faudrait que je réfléchisse. J'ai jamais réfléchi à cette question-là. À mon avis, pas grand-chose, mais il faudrait que je réfléchisse. Parce qu'une seule cuillère à café, elle ne va pas rester à cette densité longtemps. Il faut une grande quantité de neutrons pour pouvoir confiner la matière pour qu'en son centre, elle reste à une densité aussi extrême. Hein, c'est ça qui fait... On ne peut atteindre cette densité que parce qu'on a 10 puissance 30 kg. Voilà.
D'autres questions ou commentaires ?
Oui. Est-ce que les ondes gravitationnelles subissent un décalage de la même manière que les ondes lumineuses subissent un décalage en fréquence ?
Donc effectivement, oui, il y a des corrections à apporter dues à l'expansion d'univers dans le signal. Et c'est pris en compte, en l'occurrence, pour l'événement du mois d'août, à 40 mégaparsecs, le décalage vers le rouge est extrêmement faible. D'accord ? Mais c'est quelque chose qui est pris en compte dans la détermination, en particulier de la distance du signal. Ouais. C'est affecté le... Voilà, c'est en fait un signal, si vous voulez, du point de vue du signal, ce qui se propage, c'est une perturbation de la métrique de l'espace-temps, et ça se propage dans un espace-temps qui est lui-même en expansion. Donc cette expansion a forcément un impact.
Oui. Thibaut Darmour, il a fait les calculs pour voir ce qui se passe après la coalition.
Oui.
Or, on n'a pas réussi à voir quoi que ce soit.
Alors, on a réussi pour 2 trous noirs. C'est ce que je vous avais montré, si je remonte il y a une heure. Je vous ai montré... Ah la vache, j'avais quand même un peu trop de transparent. Hein. Voilà, je vous ai montré ça. Ça, c'est la toute première détection, 2 trous noirs. Et donc cette partie-là du signal, c'est le signal de relaxation dont la prédiction est en particulier due à Thibaut Darmour. Et c'est ça qui permet de mesurer les caractéristiques de ce nouveau trou noir qui est de 62 masses solaires et qui tourne à 67% de la vitesse de rotation maximale qu'il pourrait avoir. Au passage, puisque vous en parlez, je peux faire un commentaire que j'espère intéressant, qui est que ça fait longtemps qu'on parle de trou noir en astrophysique, mais quand on était précis... Depuis toujours, on ne parlait pas de trous noirs, mais de candidats trous noirs. Parce qu'en fait, toutes les sources qu'on appelait trous noirs dans l'univers, c'était en fait juste, on a tout essayé, et il n'y a qu'une seule alternative qui reste, c'est le trou noir, mais on n'est pas capable de prouver que c'est un trou noir au sens de la relativité générale. Et celui-là, c'est le tout premier vrai trou noir de l'astrophysique, c'est plus un candidat trou noir, parce que le signal colle tellement bien avec la prédiction du signal de relaxation attendu en relativité générale vers un trou noir, qu'on est obligé de conclure que ce qui s'est formé ici, c'est un trou noir au sens de la relativité générale. Les deux trous noirs initiaux qui ont coalescé, c'est encore des candidats trous noirs, si on est strict. Mais le trou noir final, c'est le premier vrai trou noir de l'histoire de la physique.
Alors, les maths de Blanchet, donc c'est les maths d'avant.
Voilà, Blanchet, il est là, et D'Amour, il est là. Ouais.
C'est lesquels les plus compliqués?
Je ne vais pas rentrer dans ce débat, je ne comprends ni l'un ni l'autre dans les détails. Les deux sont très compliqués. Typiquement, par exemple, je connais mieux le travail de Luc Blanchet, les calculs qu'il fait et les formules mathématiques qui décrivent le signal au niveau de développement perturbatif qu'il atteint, c'est impossible de l'imprimer sur une page. En fait, les équations sont tellement longues que ce qu'on fournit, c'est un classeur informatique, un classeur Mathematica, avec toute l'équation, mais on ne peut pas l'imprimer. Voilà, donc ça vous donne une idée des équations qui sont derrière.
Une ou deux questions pour finir.
Mais le signal de relaxation, il est assez compliqué à calculer aussi.
Bonsoir, merci pour vos présentations. Si on a de plus en plus de détecteurs sur la planète, et qu'on arrive à observer comme ça de plus en plus de phénomènes, de même des ondes gravitationnelles, est-ce qu'on n'a pas aussi possibilité d'en voir ce superposé?
Tout à fait. Alors, vous avez raison, ça, j'en ai pas parlé, mais au bout d'un moment, on attend ce qu'on appelle un fond stochastique, qui est la superposition de plein de sources qui sont lointaines, qu'on ne détecte pas individuellement, mais ce qu'on détecte, c'est la somme de toutes ces sources. Donc là, on est dans la situation où ce signal a déjà une prédiction théorique, il y a des gens qui le calculent. Alors, ça nécessite de faire des hypothèses sur les taux d'événements, etc. Donc ce n'est pas une prédiction, c'est en fait plein de prédictions pour différents scénarios, et voilà. Mais on est très très loin de le détecter. Et si un jour on le détecte, eh ben, on pourra savoir quel était le bon scénario. Alors, une des pistes prometteuses pour le détecter, c'est à très très basse fréquence. Ça me permet de parler de la troisième méthode de détection des ondes gravitationnelles. J'ai parlé au sol, Virgo LIGO, dans l'espace, LISA. À encore plus basse fréquence, il faut construire un interféromètre gigantesque. Et ça, on ne peut plus le faire. Donc, on trouve une autre idée. Et on utilise des pulsars. On utilise un réseau de pulsars, qui sont donc maintenant avec des distances de plusieurs années-lumière, ou centaines ou milliers d'années-lumière. Et les pulsars sont des horloges tellement précises que s'il y a une onde gravitationnelle qui passe dans le réseau, on va voir les différents pulsars se décaler légèrement et on va être capable de mesurer ce décalage. Et donc c'est une technique qu'on appelle le Pulsar Timing Array, qui est déjà en fonctionnement, qui pour l'instant n'a pas détecté le fond stochastique, mais a déjà mis les meilleures limites sur son intensité. Et on cherche à augmenter le nombre de pulsars dans ce réseau pour améliorer sa sensibilité. Les gens sont très imaginatifs pour trouver des méthodes de détection quand la technique humaine atteint ses limites.
Une autre question? Ah oui.
Merci pour la présentation. On parle de dualité onde-particule, en permanence. Est-ce que ça a un sens ou est-ce que ça n'en a aucun? Est-ce que vous avez posé la question ce qui concerne les ondes gravitationnelles?
Alors, la lumière, déjà, ça a un sens. La lumière, d'un point de vue physique, est décrite de manière équivalente comme une onde ou comme des particules. J'ai parlé plusieurs fois de photons. Et certaines expériences mettent en évidence plutôt les aspects ondulatoires, par exemple les expériences d'interférence, et d'autres plutôt des aspects corpusculaires, par exemple l'effet photoélectrique, la façon dont on peut, avec certains photons, arracher des électrons à la matière. Alors, pour les ondes gravitationnelles, c'est... je vais jusqu'au bout du raisonnement. Et la bonne théorie physique qui réconcilie vraiment l'approche ondulatoire et corpusculaire et qui décrit correctement le phénomène lumière, c'est la mécanique quantique. Pour la relativité générale, on a un problème qui est qu'on n'a pas de théorie quantique de la gravité. Donc, en relativité générale stricte, l'onde gravitationnelle, c'est une pure onde et il n'y a pas de particules associées. Cependant, les gens ont l'espoir un jour de voir aboutir une théorie quantique de la gravité. Et si c'est le cas, il y aura peut-être une manifestation corpusculaire avec une particule qui a déjà un nom, qui est le graviton. Mais il n'y a pas encore de théorie aboutie pour le graviton. c'est quelque chose, c'est un effort théorique énorme de développer cette théorie quantique de la gravité. Elle n'existe pas encore. Ou plus exactement, il y a plusieurs pistes et on ne sait pas quelle est la bonne. Un lien avec ce que j'ai montré aujourd'hui, c'est que justement, certaines des pistes prédisent des ondes gravitationnelles qui ne vont pas exactement à la vitesse de la lumière. Par exemple, si le graviton est massif. Et donc, le décalage de 2 secondes sur 130 millions d'années-lumière dans le cas de l'événement du mois d'août permet d'éliminer certaines de ces théories. Donc voilà où on en est.
Bien, je vous propose d'arrêter là. Ce serait une toute dernière question rapide. Non ? Donc on s'arrête avec une toute dernière là-haut.
The last one.
Est-ce que la détection de ces émissions dans le système gravitationnel va permettre de comprendre ?
À l'intérieur d'un trou noir, c'est ça que... Alors, la réponse, dans un premier temps, serait non, parce que tout ce qu'on détecte est parfaitement compatible avec la relativité générale, donc ne nous permet pas d'aller vers une théorie plus aboutie, même si ça permet de tester, hein, c'est ce que j'ai dit, mais ça ne... Voilà. Or, il faut une théorie plus aboutie pour répondre à votre question. En particulier, on attend une théorie quantique de la gravité pour pouvoir répondre à cette question et pouvoir dire si, par exemple, il y a une certaine structure interne. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'alternative à la relativité générale pour décrire l'objet. Et en relativité générale, on ne sait pas répondre à cette question. Il n'y a pas de structure interne au trou noir.
Voilà, je vous propose d'arrêter là. Merci d'être venu. Merci.